À voix nue. Martin Kenéen s'entretient avec Jacques-Alain Miller. Aujourd'hui, deuxième volet, rue d'Ulm. Jacques-Alain Miller, avant que d'être psychanalyste et d'établir les séminaires de Jacques Lacan, avant de fonder également une école pour diffuser son enseignement, l'école de la cause freudienne, il y a tout juste 30 ans, vous entrez en 1962, justement, à l'école, comme vous l'appelez, c'est-à-dire à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, dont vous sortirez agrégé de philosophie.
Oui, d'ailleurs, si Lacan a créé son école à lui, l'école freudienne de Paris en 1964, et à l'époque c'était clair qu'il avait d'ailleurs appelé d'un autre nom parce qu'il gardait le vrai nom secret parce qu'il voulait d'abord voir comment les gens réagissaient, donc il avait dit École française de psychanalyse, EFP, et puis après il a révélé que c'était École freudienne de Paris, mais pour tout le monde c'était clair que s'il disait école, c'était en référence à l'école normale où était accueilli son séminaire, grâce à Althusser.
Et en 1962, c'est 2 ans avant que vous rencontriez Jacques Lacan pour la première fois. Vous avez 18 ans, Jacques-Alain Miller. Que représentait pour vous cette fameuse école, l'école normale supérieure, à l'âge de 18 ans ?
Oh, ça représentait beaucoup. C'était... Mes parents ne connaissaient pas d'intellectuels. J'ai même pensé, quand je suis entré dans le bureau où il y avait Jean Hippolyte, directeur de l'école à l'époque, et grand traducteur de Hegel... grand commentateur de Hegel, ami de la promotion de Sartre, et dont je ne savais pas qu'il avait participé au séminaire de Lacan, parce que j'ignorais tout de Lacan, qui avait Hippolyte et Althusser, dont j'avais lu le petit livre sur Montesquieu et adoré le petit livre sur Montesquieu qui était publié aux presses universitaires, je me suis dit, je vois, c'est les deux premières personnes ayant écrit des livres que je vois. Alors le souvenir que j'ai, c'est que regardant Hippolyte m'a dit « On manque d'élèves dans la section des anglicistes, est-ce que vous ne voulez pas préparer une agrégation en anglais ?» Alors j'ai dit « Non, monsieur, je m'excuse, mais moi je veux faire de la philosophie. »« Oui, mais il y en a beaucoup, etc. » Bon. Et puis Althusser a regardé ça un peu ironiquement, après m'a invité à venir le trouver dans son bureau, et puis on a parlé pour la première fois.
Jacques-Alain Miller a... Vous vous targuez d'avoir suivi parmi les tout premiers, et alors qu'il n'était pas encore en odeur de sainteté, le séminaire de Roland Barthes, qui a d'ailleurs préfacé la thèse de votre frère, Gérard Miller. Voilà. Qu'avait-il, Barthes, de singulier parmi les enseignants qui vous a été donné de rencontrer ?
Ce n'était pas un enseignant. Hein. Pour moi, j'ignorais tout de Barthes. Et donc, quand par exemple, on avait su que comme sujet au concours de l'école, on avait donné langage, parole, écriture, c'était pas repéré au niveau des grands thèmes de la philosophie. Même notre professeur nous avait dit, mais il paraît qu'il y a un type qui s'appelle Michel Foucault qui est parmi les examinateurs et il donne des titres. Il y avait des représentations des professeurs de philosophie qu'il avait donné un triptyque de termes qui ne figurait dans aucun chapitre de philosophie. C'est difficilement pensable maintenant, mais c'était comme ça. Et donc j'ai passé d'ailleurs l'oral devant Foucault. Et c'est lui qui m'a noté à l'écrit aussi. L'oral, il était très gentil. Barthes, moi, ce que j'avais lu de lui, j'avais lu un seul livre de lui, qui était dans la collection Microcosme du Seuil, où c'était les auteurs par eux-mêmes, il avait fait un Michelet. Ce livre m'a bouleversé, tellement, c'était tellement nouveau pour moi, tellement, ça correspondait tellement à ma forme d'esprit. Est-ce que j'avais une forme de l'esprit ? Je ne sais pas, mais j'ai adoré ce livre, et d'ailleurs le premier exposé que j'ai évoqué, que j'ai fait sur Descartes au séminaire des agrégatifs d'Althusser, c'était un exposé qui appliquait en quelque sorte le Michelet de Barthes à Descartes, et donc il cherchait les métaphores de Descartes, c'est en rapport à la scolastique, quand il dit il faut ouvrir les fenêtres, il faut aérer, etc., j'avais travaillé dans l'esprit de Barthes. Donc, quand je suis arrivé à l'école normale, première chose, comment je peux rencontrer ce type ? Où est-il ? Or, c'était, d'habitude, Barthes était un écrivain, c'était un plumitif, dans les revues, je ne sais pas, il devait gagner sa vie aussi, avec le CNRS, je ne sais pas, mais c'était la première année où commençait son séminaire, j'ai appris hautes études. Et donc, je me suis pointé aux études, on était 20. Il y avait 20 autour de la table, avec Barthes, pour nous. Et donc, pour moi, j'étais absolument ravi. Et bon, Bon, je crois qu'on peut le dire, bon, il avait un œil pour les jeunes garçons. Et quand j'étais affreluquet de 18 ans, j'étais mignon. D'autre part, j'étais un peu comme maintenant, j'avais une certaine gouaille, une certaine verve, un certain élan, allant. Et donc, il m'a très vite invité à dîner. Et donc, à 18 ans, bon, et on se promenait, je le raccompagnais chez lui, enfin, en bas de chez lui, de la rue Servan-Denis, où on tournait autour de la fontaine Saint-Sulpice, où je me rappelle de lui. Je lui disais, oui, vous faites des articles là, c'était sur mobile de Butor, moi je trouve ça illisible. Et je me souviens de Barthes disant « Ah ben pourtant, là, j'ai pas eu à me forcer ». Ça prouvait que c'était pas son goût, cette littérature-là. Et il a fini par le révéler avec le plaisir du texte. Mais donc, je l'ai... Lui, c'est le premier écrivain avec qui, dont j'ai été l'intime, quand même. Alors, ça s'est un peu distendu, parce qu'au bout de 2 ans, il a réussi... il voulait m'inviter à faire un voyage avec lui et tout. Je me suis dit oui. Et à ce moment-là, je lui ai parlé d'une jeune fille qui m'intéressait. Et alors, il a été très déçu. Je me souviens, je ne faut pas en rire, parce qu'il était très déçu. Il m'a dit, mais vous êtes comme ça depuis quand? Alors, c'est-à-dire depuis quand vous êtes hétérosexuel? Je lui ai dit, depuis toujours, vous savez, monsieur. Et donc là, mais il a continué de m'envoyer des lettres. Et moi aussi, on a correspondu. Et il a toujours, quand j'ai eu besoin pour le département de psychanalyse, de personnes qui soutiennent, il a toujours été là. Et c'était vraiment à la vie et à la mort.
Avant que vous soyez au département de psychanalyse de l'Université Paris 8, Jacques-Alain Miller, vous avez rencontré d'autres maîtres, entre guillemets, à l'École normale supérieure. Et parmi ceux que vous reconnaissez comme vos maîtres à cette époque, il y a surtout Louis Althusser, pour lequel vous avez accepté de vous encarter chez les étudiants communistes.
Oui.
Vous dites avoir alors endossé pour lui l'armure du preux, malgré l'aura dont on les nimbe aujourd'hui, Barthes, Althusser. Avait-il besoin qu'on les défende ?
D'abord, je voudrais. Il y avait Derrida aussi. Derrida, il était absolument inconnu. C'était un jeune, un petit assistant. Et donc moi, à la rentrée 62, des Normaliens, qu'est-ce qu'on va faire? On se promène en Sorbonne, qui était le lieu de perdition dont on nous avertissait quand on était à Louis-le-Grand, c'est que si on travaillait pas bien à Louis-le-Grand, on finirait en Sorbonne, qui était la perdition, où il y avait des filles, etc., alors que nous étions entre garçons qui travaillions, nous étions en couvent, et que si on travaillait pas bien, c'est un peu comme Pinocchio, hein. La voix qui a deux voix, l'une bonne, l'autre mauvaise, ou Hercule avec son bivium, et donc la Sorbonne, c'était le lieu de perdition, où il y avait les filles. Bon. Donc, première chose que je fais quand j'entre à l'École normale, je vais me promener en Sorbonne. Premièrement, pour regarder les filles. Deuxièmement, pour voir quel cours je vais suivre. Bon, je les trouve nuls en philosophie. Bon, j'ai tort de dire ça, parce qu'il y a certainement des gens très bien, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Et puis, dans une salle, il y a un petit assistant, un peu noireau, comme ça, qui parle, et je trouve ça formidable. Et je m'assois et je m'inscris. Et comme je dis que je suis normalien, mais il faut remplir des renseignements, il me fait venir et tout. C'était Derrida. J'ai connu Derrida, là, tout jeune assistant, qui n'avait pas encore publié L'origine de la géométrie, qui est sa première traduction de Husserl, etc. Je me souviens d'ailleurs de l'avoir vu dans les librairies des presses, regarder son propre livre, qui était son propre premier livre sorti avec plaisir. Comme ça, je me suis fait reconnaître de lui après, mais je l'ai regardé, en train de regarder son livre. Et j'ai adoré son cours, c'était sur la méthode, je me souviens, et toute la philosophie passait, mais dans une langue charnue. Bon. Et j'ai parlé, par exemple, à Barthes, je lui ai dit, en Sorbonne, il y a un type formidable, que personne ne connaît, qui s'appelle Derrida, il n'a jamais entendu parler de Derrida. Et donc j'ai été un peu comme ça. Alors après, Foucault, lui, enseignait à Clermont, et donc il rentrait à Paris, et il dînait avec Barthes, et assez souvent, j'ai dîné entre Barthes et Foucault. C'est vraiment des bons souvenirs au restaurant chinois, etc. Donc, ils échangeaient leurs potins. J'apprenais des choses par là. Ils me demandaient des trucs sur l'École normale. Et je me souviens que j'ai parlé de Derrida, que Foucault, lui, connaissait bien, puisqu'il avait été son prof. Et alors, bon, écoutez, ça me vient, je vais le dire. Ça n'a rien de choquant. Je me souviens que j'ai dit, donc j'aime chez Derrida, comment il fouille les questions, etc., il déconstruit et tout. Et Foucault a dit, oui, mais moi, ce que j'aime surtout chez Derrida, c'est son coup. Il a un coup puissant, il a fait ce mouvement, vous voyez, le coup se découper sur les épaules. Bon, voilà. Et ça m'est resté, ce décalage. Bon. Donc, évidemment, j'étais un peu là par effraction, parce que je n'étais pas de la paroisse. Mais je n'ai pas fait croire que j'en étais, d'ailleurs. Enfin, ils ne me posaient pas la question.
En revanche, Louis Althusser, à cette époque, à l'École normale supérieure, Jacques-Alain Miller, lui, il n'est pas en pleine ascension et il n'est pas au fait de sa
Ah, non, non, non,
puissance.
il allait très bien. J'ai eu cette chance-là qu'il allait très bien. Et il était d'un charme intellectuel extraordinaire. Vraiment, je me souviens. Alors, il utilisait beaucoup l'adjectif que je n'avais jamais entendu utiliser dans mes classes. D'ailleurs, en classe de philo à Louis-Grand, j'avais d'abord été mis dans la. Il y avait deux philos. J'avais d'abord été mis en philo 1 où il y avait un prof thomiste. C'était très respectable. Mais au bout de deux cours, je me suis dit, je ne vais pas passer toute mon année avec un thomiste, ce n'est pas possible. Et j'ai fait des pieds et des mains pour passer en philo 2 où il y avait Jacques Merleau-Ponty, qui était le cousin de Maurice Merleau-Ponty, épistémologue, où j'ai été à l'aise. Bon, j'ai laissé le thomiste, pas par mépris pour le thomiste, mais parce que c'était quand même pas mal. C'était quand même pas bon. Donc j'ai eu Jacques Merleau-Ponty, très sérieux, très posé. J'ai eu ensuite en Hippocagne, j'avais Claude Codos qui faisait une collection de morceaux choisis au PUF et qui était kantien. Alors lui, moi je découvrais Nietzsche à ce moment-là et j'étais un peu exalté par Nietzsche et j'écrivais mes dissertations dans la nuit en bouffant des grains de café pour me tenir éveillé mais qui se tenaient mes dissertations, je vous assure qu'elles se tenaient. Et à un moment, j'ai la copie encore, je crois, j'ai retrouvé, ça a été mis à Guitrancourt, dans le grenier, etc., une copie où il dit, il refuse de mettre une note. Parce qu'il savait que je savais de la philo, mais il y a là des propositions qui choquent n'importe quel le bon sens. Enfin, il avait refusé, c'est la première fois, il avait refusé de noter ma copie. Bon. Donc mais il savait que je savais de la philo, mais même que je pense que j'en savais plus que n'importe qui dans cette classe, encore qu'il y avait des types forts. Hein. Il y avait un luxembourgeois qui connaissait parfaitement l'allemand et qui était très très fort et qui était mon copain et on est allé au Luxembourg ensemble avec... Bon, passons.
Mais je vous parle d'Althusser et vous me parlez d'autres
Non, non, non,
professeurs.
non, c'était pour dire les trois profs que j'ai eus. Après, c'était Savin, Maurice Savin, qui lui était le moins sérieux, qui est l'éditeur d'Alain dans la Pléiade, et qui était à mourir de rire. C'est-à-dire, il nous mimait la dialectique de Hegel, donc il faisait le premier mouvement, il se promenait tranquillement. Pour faire la négation, il se mettait au fond de la classe et il courait jusqu'au bureau pour montrer que c'était la négation. Et après, il faisait la synthèse avec des grands gestes. Il était à mourir de rire, mais il savait pas beaucoup, beaucoup de philo. Et donc, Althusser, c'était tout à fait autre chose. C'était une digression pour vous dire le charme qu'a eu pour moi dans la bouche d'Althusser, l'adjectif qu'il employait, qui était conceptuel. Et ce conceptuel me faisait des frissons de plaisir conceptuel. Bon, maintenant c'est banal, l'adjectif est devenu banal, mais moi, en 62, cet adjectif dans la bouche d'Althusser, c'était le bonheur.
On parle de vos professeurs à l'École normale supérieure, Jacques-Alain Miller, mais il y a aussi vos condisciples,
Oui,
Rudulme.
ah oui.
Il vous est arrivé de mentionner notamment Jacques Rancière et Robert Linhart. Le premier, il se passionne alors pour le socialiste utopique Étienne Cabet. Le second, il décidera quelques années plus tard de s'établir dans une usine Citroën.
Oh, c'est
Votre
plus que
chemin.
ça, ne faut pas les rêver. Non. D'abord, c'était les philosophes autour d'Althusser. J'ai connu les agrégatifs autour d'Althusser. J'ai connu. Alors, il faut les prendre. Donc, c'était tous des gars plus âgés que moi, plus près de moi. Alors, celui d'abord qui est devenu mon ami, on était inséparables, c'était Yves Duroy. C'est avec lui que, d'ailleurs, quand Althusser m'a dit « Lis Lacan », donc j'ai suivi ça, on est allé à la campagne ensemble du Roux, et moi, lui, il préparait l'agrégation, il lisait Leibniz au rez-de-chaussée, moi, à l'étage, je lisais le rapport de Rome, et on devait se retrouver au déjeuner, et je lui ai dit « Je viens de lire un truc absolument inouï », bon, c'était avec du Roux. Et il y avait Balibar, fort, impressionnant, marxiste, posé. Bon. Il y avait ceux qui étaient sur le point de partir ou qui étaient déjà partis, très impressionnant, Pierre Macheret, solide et qui m'a toujours, que moi j'admirais beaucoup et qui, moi, lui, me considérait toujours avec un peu de méfiance parce qu'il voyait que j'étais pas tout à fait. J'étais pas d'une famille universitaire. Enfin, il y avait des choses que je ne sais pas si lui-même l'était d'ailleurs, mais je sentais toujours chez lui, à mon égard, une petite réserve de qu'est-ce qu'il va encore inventer celui-là. Et François Rugnot, qui est devenu mon meilleur ami pour la vie et qui est le parrain de ma fille. Enfin.
Mais sur quel trait précisément, Jacques-Alain Miller, vous avez choisi vos amis à l'ENS ?
Vous savez, on s'est choisi comme ça, c'était... c'est bon. D'ailleurs, j'étais plus ami avec certains qui n'étaient peut-être amis avec moi. Moi, j'aimais beaucoup Balibar. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il m'aime tellement, hein, Balibar. Duroux, il m'a bien aimé, je sais. Après, ça s'est un peu... nos chemins ont un peu divergé. Macheret, donc j'ai jamais été ami avec lui, j'ai écouté, et là il a sorti un livre que je vais lire sur l'utopie, il a fait comme un travail de commentaire de Spinoza, proposition par proposition, qui est formidable, que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à lire Spinoza, et puis il y avait François Rugnot, et il y avait aussi Jean-Marie Villégier qui est devenu metteur en scène, et qui lui à un moment a coupé net, plusieurs années après, mais j'avais un peu comme tuteur Villégier et Rugnot, et j'étais un peu le jeune, enfin j'avais 4 ans de moins qu'eux, quelque chose comme ça, 5 ans de moins qu'eux, donc j'étais un peu leur jeune, comme ça. Par contre, Jean-Claude Miner, il n'était pas chez les philosophes, il était grammairien, et donc pas du tout, et il fréquentait pas grand monde, sauf Rancière. Et je crois, enfin, essentiellement. Et donc, moi, je l'ai connu peut-être par Rancière, très au début. Il m'a beaucoup impressionné parce que lui, il avait l'air de savoir tout de l'université, de comment ça fonctionnait, ce que c'était. Et il prenait plaisir à me transmettre ça. Et donc, il était mon mentor de ce point de vue-là, bien que nous avions 3 ans de différence, 3 ans plus vieux, pas plus. Et en même temps, il appréciait chez moi, il m'avait appelé le Puer Senex. Il me désignait comme le Puer Senex, c'est une figure ancienne, c'est-à-dire l'enfant, mais qui est vieux par le savoir, etc. Et on avait ce rapport-là, et on l'a toujours gardé d'une certaine façon. Je défère à ses 3 ans d'aîné, et donc je l'écoute, mais en même temps, il a un œil appréciatif sur lui, à la différence de Macheret, il aime bien mes inventions et mes cabrioles. Et quand j'ai eu l'idée des cahiers pour l'analyse, ça s'est fait avec Milner, Rugnot et Gros Richard, et moi ça faisait 4, et plus tard, une année plus tard, François Rugnot a amené Badiou, qui était déjà sorti de l'école normale quand j'y étais entré, donc je ne l'ai pas connu par là, je l'ai connu par... et on l'a coopté pour faire le 5e.
Et donc si on vient en 1964, 2 ans après votre entrée à l'école de la rue d'Ulm, Jacques-Alain Miller, c'est l'année, c'est le moment où vous rencontrez pour la première fois Jacques Lacan. Althusser, vous l'avez dit, vous avez donné à étudier Lacan. Althusser avait...
Oui, je lui ai dit, je ne connais rien. Moi, il avait dit qu'il allait faire un séminaire de l'année sur Lacan. Il m'a convoqué de son bureau, il me dit « tu vas y participer ou pas ?» Je lui ai dit « moi, je viendrai, j'écouterai, je ne connais rien à Lacan. Moi, tout ce que je connais, c'est la blague de Revel que je trouve très drôle dans « Pourquoi des philosophes ?» qui était à partir d'un discours de Dolto qui parlait de Lacan et de Lagache. Ça se tenait à la Villa Tivoli comme du grand dragon Lacan et du grand dragon Lagache, par rapport à quoi elle était le petit dragon Françoise. Et Revel s'en moquait, et je trouvais qu'il avait raison. Et Althusser m'a dit, lis Lacan, tu verras, ça te plaira.
Et quand vous rencontrez Lacan pour la première fois, quand il vient donner son séminaire dans les murs de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à l'invitation d'Althusser, il ne ressemble pas, d'après votre témoignage, à un grand dragon, puisqu'il vous fait penser, dites-vous, à Thémistocle.
Mais si vous voulez, moi j'ai rencontré Lacan dans le texte. J'ai rencontré, quand j'ai lu le rapport de Rome, son grand texte « Fonction et champ de la parole et de langage en psychanalyse », au premier étage de la maison de Clairefontaine que possédait mon père, Duroux, étudiant de Leibniz, si mon souvenir est bon, au rez-de-chaussée, c'est là que j'ai eu un coup de foudre pour Lacan. Parce que quand j'étais entré à l'école normale, c'était la, je me souviens pendant les vacances, j'ai lu la raison de la critique de la raison dialectique, j'ai lu La pensée sauvage, j'ai lu Totémisme aujourd'hui de Lévi-Strauss, et je voulais connaître de la logique, j'ai lu Abstract cette théorie d'Abraham Frankel dans la collection Jaune Northolan. Bon. Et je sentais que tout ça, c'était du nouveau. Pour moi, c'était du nouveau, c'était palpitant, mais comment est-ce que ça pouvait s'encastrer dans la philosophie, dans Sartre, dans bon, enfin, il y avait quelque chose qui manquait, des joints qui manquaient. Et quand j'ai lu ça, j'ai vu le joint. J'ai vu comment quelqu'un qui, en effet, empruntait des choses à... Pontalis a décrit ça à un moment, de façon très amusante, Lacan comme ayant pillé un peu tout le monde. Mais c'est pas faux, sauf que c'est pas du pillage. C'était au contraire, mais c'est très amusant le passage de Pontalis, je ne l'ai pas sous la main là, il le compare à un illusionniste, etc. Mais au contraire, moi je l'ai vécu ça, j'ai vécu ce désordre des idées contemporaines, on sentait que le structuralisme faisait une incidence, mais on ne savait pas comment le placer, et là j'ai vu comment ça pouvait communiquer tout ça, et donc ça apportait une solution à on aurait pu en parler comme on parlait des impasses de la pensée au moment de Tübingen pour Hegel, Schelling, Fichte, enfin qu'il y avait quelque chose, on sentait que c'était pas exactement comme Kant l'avait mis en place, qu'il fallait quelque chose de plus que l'époque, et le texte de Lacan était une solution, une voie de solution qui permettait de s'y retrouver. Et donc j'ai été ébloui, et je peux dire j'ai eu un coup de foudre théorique pour Lacan. C'est-à-dire, j'avais jamais vu une chose d'une telle puissance d'ordonnancement. Et déjà, j'en ai parlé à mes camarades, j'ai fait une sorte de propagande, enfin, où j'ai témoigné simplement de ce que j'ai vu. C'est comme, j'ai vu paraître le type qui a eu son hallucination et qui crée une religion à partir de là. Une fausse religion, les vrais, c'est autre chose. Bon. Mais il a une hallucination, il rapporte aux autres, c'est, j'ai vu, je vous assure, j'ai touché, etc. Bon. Et donc les autres, il y a certains qui se sont mis à sauter avec moi. Par exemple, Milner, où il a pigé, Duroux, etc. Eux deux surtout. Regnault aussi, peut-être qu'il le connaissait d'ailleurs. Je n'ai pas le souvenir exact de ça. Bon. Et donc, il est déjà devenu pour nous un personnage mythique, Lacan, à partir de ses écrits, de ses références, une référence à Borges parfaitement topique, etc. Donc j'ai cherché d'avoir, il y avait 6 volumes à ce moment-là de la revue La Psychanalyse que j'ai. Et donc après, on a vu Lacan à la Tribune. Et bon, c'était un discours qui n'avait rien à voir avec les... j'avais adoré Barthes qui était... d'une suavité extraordinaire dans ce petit groupe de 20 où on était. On était comme dans un bain chaud tous ensemble, on était comme dans un jacuzzi tous ensemble. Bon, c'était formidable. J'avais écouté Foucault une ou deux fois, invité par Althusser. C'était percutant, coupant. On avait l'impression d'un lance-jongleur avec des couteaux. Enfin, c'était formidable. Derrida, j'avais adoré ça. Profond, malaxant, la patte, la pensée, comme ça. Althusser, c'était une... qu'est-ce que je vais dire, un danseur de corde, un danseur sur la corde, comme ça, avec beaucoup de grâce, avec son conceptuel, etc. Et la corde, c'était encore autre chose. C'était d'où est-ce que ça venait. C'était un truc étrange. C'était pas le martien, mais... il y avait une sorte, ce que j'adorais chez Lacan, là, au niveau de la perception, c'était le ton de familiarité ou de présence avec lequel il évoquait les philosophes ou tout. C'était pas du tout médié par le savoir, bien qu'il l'avait, mais il se posait au présent les questions. Comme parfois font les anglo-saxons, et chez eux c'est naïf, c'est du genre, vraiment, est-ce que... Enfin, ils se mettent à la place d'Aristote pour traiter les questions, c'est pas très convaincant. Mais lui, c'était pas ça, mais c'était une... On voyait une sorte de familiarité, de raccourcissement des distances, et qu'on voyait qu'il... Finalement, j'ai compris, après, il les traitait comme des parlettes, qui avaient eu des problèmes, et qui essayaient de les résoudre par le langage, comme nous tous. Et donc ça, c'était très émouvant, et très... c'était ça surtout, et puis il y avait un homme qui se battait, c'est-à-dire il était proscrit, il venait quand même de prendre sur la figure les directives de l'international qui disaient il ne pourra plus jamais former personne. Il peut rester là, mais on lui coupe les couilles. Si vous laissez ça en Amérique, on ferait un petit son. Mais il peut, à condition qu'il ne forme jamais personne et qu'il pourra rester là dans le coin, vous savez, comme les eunuques traîner comme ça dans la poussière. Bon.
Alors, ça, c'était 1963
63, juste avant. Lacan ne m'en a jamais parlé. Pas un mot. Je l'ai connu juste après. Moi, je l'ai connu en janvier. Il ne parlait plus de ça. C'était déjà passé. Ça, c'était le côté en avant. Et donc, il venait. Et il avait une colère. Alors moi, je me suis mis en colère il y a 2 jours en évoquant le fait que Lacan avait été proscrit de l'école normale, en parlant à l'école normale. Je me suis rendu compte que j'étais en colère, j'ai tapé sur la table devant tout le monde, devant la directrice et tout. Monique Antos-Pervert, qui me pardonnera, bien sûr. Alors oui, j'étais furieux d'évoquer que, au fond, moi, sur moi, on avait reporté la proscription qui avait touché Lacan. Mais qu'à part ça, à d'autres, on offrait des salles pour parler de Lacan. Donc c'était moi qui devais porter le péché du beau-père, même pas du père, mais du beau-père, et qu'aux autres qui offraient de mettre Lacan vraiment, de le mortifier comme il faut, et qui évoquaient, qui l'archive, n'est-ce pas, et qui évoquent Lacan à partir des rapports d'huissier, quand ils ont inventorié sa bibliothèque et tout, n'est-ce pas, il y a des gens qui mettent ça dans leurs livres. Et donc, ça, là, on est bien sûr qu'il ne remue plus. Mais Lacan remue encore, justement. Et c'est ce que j'ai dit à mes petites filles qui étaient là. J'ai dit, là, vous allez savoir quelque chose de votre arrière-grand-père. Il est mort depuis 30 ans. Et regardez le mouvement que ça fait. Eh bien, il n'y a personne en France qui est mort il y a 30 ans et que ça fait ce mouvement-là. Même pas De Gaulle. Voilà.
C'était à voix nue, Martin Kenéen s'entretenait avec Jacques-Alain Miller. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Benjamin Thuot, attaché d'émission Claire Poinsignon. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur franceculture.com. Demain, troisième étape, rue Robespierre.